Et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle du cannabis, légalisation, dépénalisation.
Bienvenue dans les années 70.
Sexe, drogue et rock'n'roll.
Une des stars de cette époque est là.
Sauf qu'en 1971, la France vote une loi pour lutter contre les drogues, et notamment le cannabis. C'est le point de départ d'une guerre à la drogue. À tel point que dans les années 2010, le budget pour mener cette bataille a doublé. Et pourtant, le nombre de personnes ayant déclaré déjà avoir consommé du cannabis a lui quadruplé depuis les années 1992.
Alors est-ce qu'il ne faudrait pas changer de stratégie, et au lieu d'interdire le cannabis, l'autoriser ?
Mais de quelle manière ?
Dans le monde, de nombreux pays ont fait le choix de la dépénalisation. Ça veut dire que le trafic reste illégal. L'usage aussi, mais les consommateurs ne sont plus poursuivis en justice.
Par exemple, en 2001, le Portugal a fait le choix de dépénaliser toutes les drogues. Oui, toutes les drogues. À l'époque, le pays avait un gros problème de consommation d'héroïne. Depuis cette réforme, toutes personnes contrôlées avec de la drogue en dessous d'une certaine quantité sont orientées vers un suivi médical. Le dispositif s'est également vu accompagné de campagnes de prévention dès l'école. En résumé, le Portugal a mené une politique de décriminalisation de l'usage des drogues et de centrage sur les droits humains.
En faisant un point, 20 ans après l'application de cette loi, les dégâts causés par les drogues ont diminué. À population égale, les décès liés aux drogues sont passés de 340 en 2000 à 60 en 2019.
Mais qu'en est-il du cannabis ?
Il est vrai que la consommation déclarée a un peu augmenté. Mais en parallèle, les consommateurs jugés à risque sont davantage suivis médicalement. Mais il reste toujours un souci à la dépénalisation. C'est la question de la qualité de la marchandise. Dans les situations de dépénalisation, c'est toujours sur le marché noir que les usagers se fournissent. Cela peut, et a, dans certains cas, des conséquences sanitaires inquiétantes.
Se pose aussi le problème de la concentration en THC, tétrahydrocannabinol, la molécule à l'origine des effets psychotropes. L'augmentation de THC rend l'usage du cannabis plus dangereux et plus addictif. En France, dans les années 2000, le taux moyen était de 6%. En 2019, il était de 28%.
S'ajoute à cela l'impact du marché noir sur les habitants des quartiers où ont lieu les ventes. De plus, de nombreux jeunes en manque de perspective sont pris dans l'engrenage du trafic.
C'est ce qu'a observé cet économiste Christian Ben Lagdar, ayant étudié de près ce phénomène. Pour lui, il faut aller plus loin dans la réforme. Il cite « On est face à des millions de Français qui transgressent une loi datée, ancienne et complètement inefficace. »
Maintenant que nous avons vu que la dépénalisation peut être une solution envisageable, nous verrons que certains pays vont même jusqu'à légaliser le cannabis.
La légalisation, en effet, c'est le choix que quelques pays ont fait. Cela veut dire autoriser la production, la distribution et la consommation du cannabis. Ce qui revient à créer une toute nouvelle filière économique dans le pays. Une filière très régulée où la vente est interdite en dessous d'un certain âge. Car c'est chez les jeunes que le cannabis présente le plus de risques, leur cerveau n'étant pas complètement formé.
La légalisation implique aussi un contrôle de la qualité et de la teneur en THC des produits vendus. Enfin, le choix de légaliser est aussi une stratégie d'endiguement du trafic illégal. Pour cela, il faut d'abord que le prix de ce cannabis soit très compétitif.
Mais la question de l'efficacité se pose. Cette stratégie est-elle la meilleure option ?
Prenons l'exemple du Canada qui, 3 ans après la légalisation du cannabis en 2019, la part des ventes légales du cannabis a augmenté et grignoté celle du marché illégal. Depuis 2020, elle l'a même dépassée. Ces ventes légales de cannabis profitent à l'État pour la finance. Certains économistes estiment des recettes fiscales de 2,8 milliards d'euros par an. De quoi financer plusieurs mesures contre la lutte comme la lutte policière contre le marché noir, la réinsertion des petites mains du trafic et des campagnes de sensibilisation, notamment vis-à-vis des jeunes.
Tout cela est prometteur, mais s'il devient légal, ne risque-t-on pas de voir une explosion de la consommation du cannabis ?
Reprenons l'exemple du Canada de 2018 à 2020. La proportion des personnes déclarant avoir consommé du cannabis au cours de l'année a augmenté de 5 points à l'échelle du pays. Donc pas de diminution, mais pas d'explosion de la consommation pour l'instant.
Toutefois, la France est-elle capable d'un tel niveau de contrôle comme le Canada ? Vis-à-vis de la vente aux mineurs, une étude de 2019 sur la vente de tabac n'est pas très encourageante. Réalisée auprès de plus de 500 boutiques, elle montre que 2 buralistes sur 3 ont accepté de vendre des cigarettes à des personnes de 17 ans. 1 sur 12 a même accepté de vendre à des enfants de 12 ans. Sur le volet de la prévention, la France est plutôt du côté des bons élèves. Le dispositif mis en place par la loi Evin en 1991 s'est montré efficace contre la lutte du tabagisme. La gestion d'une filière cannabis pourrait donc bénéficier de ce qui a été appris et mis en place à la loi Evin.
Pour conclure cet épisode, nous pouvons dire que face à une politique répressive coûteuse et inefficace, la légalisation du cannabis a des arguments prometteurs, mais pas définitifs. En attendant, selon Marie Geoffrey, sociologue, le débat peine à avancer car les arguments idéologiques priment encore sur les arguments scientifiques. Malgré ces débats, il existe une loi, celle du 31 décembre 1970, qui constitue le socle de la politique française en matière de drogue. Cette loi instaure une série de mesures avec un double volet sanitaire et répressif. Elle est considérée comme l'une des plus répressives d'Europe.
Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode.